marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Tu sais, moi, la guerre, s'il n'y a pas de sport...
Si je te disais que j'ai de quoi te faire faire du sport, il faudra que tu te lèves de bonne heure, que tu passes des nuits en chemin de fer sur la route, sans jamais chercher à savoir ni à comprendre.
Tu m'intéresses.
L'armée des ombres.
Philippe Gerbier, 41 ans, ingénieur distingué des ponts et chaussées, esprit vif, caractère indépendant, attitude distante et ironique, amaté, semble avoir des relations, aménagé, soupçonné de pensée gaulliste, amaté, libéré sur mon lieu, influence aménagée.
Nous sommes en 1942. Gerbier, Lino Ventura dans le film, est interné dans un camp. Il ne cessera d'ailleurs d'être menacé, arrêté, de s'évader, de rejoindre Londres, d'en revenir. Et le commandant du camp, Alain Motet, est bien embarrassé par ce personnage insaisissable. Amaté, aménagé, se demande-t-il. Comment connaître, percer ces êtres en marge qui vivent dans l'intensité de la résistance ? Résistance, c'est un mot qui dans le film n'est utilisé qu'une fois par Melville, qui pourtant y a participé, comme à la France libre. Mais dans cette période, toutes les catégories sont comme court-circuitées. On ne perçoit plus que des ombres portées sur la paroi. On croit que c'est la réalité, mais de quoi peut-on être sûr ? À la fin du film, les soldats allemands eux-mêmes deviennent des ombres qui se dessinent sur un mur, tandis qu'ils mènent au peloton d'exécution les prisonniers. Tous les résistants sont en effet destinés à mourir, un à un, tués par l'ennemi, mais aussi plus d'une fois par leurs compagnons. Jean-Pierre Melville avait pu rejoindre Londres en 1943, mais il avait un frère qu'un passeur avait exécuté dans les Pyrénées en novembre de l'année précédente. Quand le passeur s'est retrouvé aux assises, Melville a refusé de venir l'y accabler. Le passeur soutenait que le frère, blessé, menaçait l'existence de tout un groupe, de tout un réseau, s'il n'était pas sacrifié. C'est dans le film la question qui se pose autour de la femme la plus intègre du groupe, Mathilde, Simone Signoret, dont le sort va être scellé par le plus pur du groupe, Saint-Luc, Paul Meurice. L'armée des ombres est sortie au début de 1969, juste avant le départ du général de Gaulle. C'est peut-être le dernier film sur la question tourné par un contemporain, mieux un acteur de l'époque. C'est tout sauf un chant patriotique, c'est un crescendo tragique.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Vincent Guiguenot, bonjour. Vous avez vu l'armée des ombres, vous, à 7 ans, pensez-vous ?
Je pense l'avoir vu, oui, dans les dossiers de l'écran en 1975. Ouais.
Vous avez été un spectateur de cinéma très précoce, donc.
Oui, j'avais une permission spéciale pour regarder les films quand ceux-ci avaient à voir avec l'histoire. Et donc j'avais développé toute une stratégie pour expliquer qu'un film, fût-il une fiction avec des acteurs, c'était aussi de l'histoire. Et donc dans les années 70, au fin fond du Morbihan, j'ai grandi... tous ces films, L'Armée des Ombres, Le Jour le plus long, et jusqu'à la diffusion en 1981 du Chagrin et la Pitié pour la première fois à la télévision.
J'ai oublié de dire que vous étiez docteur en histoire, et à ce titre, entre autres, avec Christian Delage, vous avez animé un séminaire à l'histoire, à l'Institut d'histoire du temps présent, sur le cinéma, pas le cinéma source de l'histoire, c'est pas la question que vous posiez, vous étiez bien au-delà. Et de ce séminaire, vous avez tiré un livre dont une édition refondue vient de nous être donnée aux éditions Gallimard chez Folio, L'historien et le film. Alors, de l'âge, il est réalisateur de cinéma, en même temps que docteur en histoire. Vous êtes un peu scénariste.
Alors, on a travaillé avec Christian Delage dans le cadre d'un projet de fiction qui s'appelait La Petite Patrie et qui racontait l'histoire de jeunes polytechniciens dans les années 40 qui se posent la question de l'engagement. Et donc Christian Delage a été le réalisateur de ce film qui était fondé sur des recherches historiques et donc une écriture.
Et vous, le co-scénariste?
disons qu'une partie du scénario venait de travaux que j'avais pu mener sur André Bollier et un certain nombre de jeunes polytechniciens dont certains sont entrés dans la résistance.
J'ai oublié de dire que vous étiez polytechnicien aussi, Vincent Guiguenot. Vous êtes figurant de cinéma aussi.
Oui, j'ai eu le plaisir de tourner dans le Dunkerque de Nolan grâce à mes filles que vous connaissez, Jean Lebrun, et qui m'ont dit un jour, tu sais, ils auront aussi besoin de vieux pour jouer les officiers. C'est un peu cruel, mais c'était pas faux. Et donc j'ai candidaté et j'ai pu passer une journée de tournage sur ce film qui d'ailleurs fait l'objet d'un chapitre dans le livre que vous avez cité.
Quelques éléments biographiques sur Melville. Lui, il était à Dunkerque dans le vrai, en 40.
Lui, il a connu cette opération de rapatriement Dynamo. Il va passer à Londres.
Et Melville. Et d'abord via la résistance intérieure.
Résistance intérieure. Et puis il va ensuite s'engager dans les forces françaises libres, puisqu'on a son acte d'engagement où il dit qu'il veut servir sous le nom de Melville, puisqu'il choisit, se fixe sur ce pseudonyme en 1943.
On voit ça d'ailleurs dans le cahier photographique de l'historien et le cinéma. Témoignage de Jean-Pierre Melville, autrefois Jean-Pierre Grimbach, sur ce moment et sur la fascination qu'exerçait sur lui en 1943 à Londres le responsable des services secrets de la France libre.
En 1942 et en 1943, le colonel Passy était un personnage légendaire et mythique en France. Quand des camarades à moi arrivaient, parachutés d'Angleterre, je pense à un garçon qui s'appelait Riblet, un autre qui s'appelait Philippe Valla. Et la question était toujours la même. Comment est-il, ce colonel? Parce qu'on n'avait pas de photos de lui. Le général de Gaulle, on le connaissait.
Traîner, oui, de manière générale.
Le général de Gaulle, on le connaissait, on avait des photos de lui. Le colonel Passy, on ne le savait pas. Alors on répondait, il est beau, il est jeune, il est blond, il a les yeux bleus, etc. On finissait par se faire quand même une idée exacte du personnage.
Puisqu'il y a plus mais je ne l'ai pas connu. Il existait vraiment.
Il existait vraiment, mais je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Mais je connaissais très très bien son lieutenant, son second, Pierre Brossolette. Et le 11 août 1943, j'ai passé la journée entière à Londres avec Pierre Brossolette. Et je suis parti à pied avec lui à travers Londres, de Duke Street, le bureau du BCRA, jusqu'à la gare de Victoria, où il prenait le train pour aller prendre le bateau pour aller à Alger.
Le colonel Passy tient d'ailleurs son vrai rôle dans le film L'Armée des Ombres.
Je ne pourrais pas vous envoyer toutes les armes que vous me demandez. Car, comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Et pour ça, je vais vous envoyer un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. Et je vais renforcer aussi vos agents pour améliorer les terrains d'atterrissage dont nous avons besoin avec les Lysander.
C'est incroyable, Vincent Guiguenot, depuis l'âge de raison, 7 ans que vous avez vu ce film pour la première fois, vous en savez toutes les répliques par cœur.
Il y a un certain nombre de répliques qui restent dans la mémoire de ce film. Oui.
Qu'est-ce qu'il dit Passy? Comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée à notre égard. C'est-à-dire que dans ce film, même quand c'est un vrai témoin de l'époque qui joue le rôle d'acteur, on n'est pas dans l'idéalisation.
Non, on n'est pas du tout dans un idéal gaulo-pompidolien ou résistantialiste, même si c'est un reproche qui a pu être fait au film, précisément à cause de la présence de Passy de Vavrin. Le film a été taxé de gaulliste pour cette scène de Londres. Mais c'est une lecture de la fin des années 60, du gaullisme un peu crépusculaire, qui ne renvoie pas à ce qu'a été la construction du film, qui est fondée donc sur le texte de Joseph Kessel, écrit en 1943, dans lequel Jean-Pierre Melville a fait des incises. Et en particulier, évidemment, cette scène n'est pas dans le texte de Kessel.
Alors,
on va
parler
Kessel.
Justement du texte de Kessel. Kessel est un vrai personnage réel de Londres aussi. Il se trouve bon à rien, au point de vue militaire. Et c'est une sorte de commande du général de Gaulle. Qui explique, c'est très important les écrivains pour la France, Kessel, vous devriez écrire sur les résistants. Alors, dans le texte L'Armée des Ombres, il y va à reculons.
À vrai dire, je n'ai jamais eu aussi peur en commençant un livre que celui-là. Les guerres normales D'abord, on est forcé de les faire. Tandis que là, chacun des combattants de la résistance, c'était son choix à lui. Et son choix, pas commode à faire, il fallait renoncer à la sécurité, bien sûr, mais à la vie normale, à sa famille, à tout ce qui fait la vie, le prix de la vie. Et en approchant ces gens, et pour les décrire, j'ai vraiment eu un scrupule tout à fait normal, mais qui m'a arrêté pendant assez longtemps.
Le mot « choix », Kessel dit « on fait le choix ». Jean-Pierre Melville, il n'est même pas sûr d'avoir eu les conditions libres d'un choix.
Non, il explique qu'il a été engagé dans l'armée en 1937, qu'il a été pris dans le mouvement de l'histoire. Il arrive à Londres. Il n'a pas effectivement eu le sentiment de choisir.
Mais même attendez, s'il a... dit précisément, si je ne m'étais pas appelé Grimbach, est-ce que j'aurais fait le même choix ?
En tout cas, il l'a fait et il a choisi de changer de nom, précisément parce qu'il était conscient que ce patronyme de Grimbach ne lui garantissait pas un grand avenir dans la France du maréchal Pétain. Et c'est quelqu'un qui a toujours, dans ses témoignages, à la fois voulu montrer son grand engagement, puisqu'il a été, comme vous l'avez rappelé, à la fois de la résistance intérieure de la France libre et sur une période complète de guerre, puisqu'il était déjà soldat au moment de la déclaration de guerre. Il raconte, il...
Oui, mais sans se mettre en avant sur un socle.
Tout à fait, il n'a jamais mis en avant cette expérience de la résistance qui pourtant est au cœur de l'écriture de l'Armée des Ombres et de la manière dont vont s'agencer le texte de Kessel et ses expériences à la fois de résistant et de cinéaste.
Alors l'agencement du texte de Kessel et du scénario de Melville. On va prendre une scène et vous allez en tirer les fils. Nous sommes juste après que le directeur du camp d'internement a rempli la fiche de Gerbier, Lino Ventura, et il va se retrouver placé, Gerbier, dans une chambrée, aux côtés de Georges Cellier, de Marco Perrin et d'Hubert de l'Apparent. Quelle équipe ?
Philippe Gerbier.
Colonel Jarret du Plessis. Je ne sais pas, monsieur, ce qui vous amène ici, mais je tiens à ce que vous appreniez tout de suite pourquoi j'ai été interné. J'ai affirmé dans un café que l'amiral Darlan était un Jean-Foutre. Aujourd'hui, j'ajoute que le maréchal Pétain est un autre Jean-Foutre, qui laisse brimer les soldats par les marins.
Au moins, vous, colonel, vous souffrez pour une idée.
Robert, pharmacien. Savez-vous ce qu'est un obus malaire ?
Non.
L'obus malaire, monsieur, est un récipient à forme ogivale destiné à provoquer des réactions chimiques sous pression. Oui, je suis un expert chimiste et j'étais bien forcé d'avoir un obus malaire. On m'a dénoncé pour détention d'obus et je n'ai jamais pu me faire entendre.
Octave Bonafous. Voyageur de commerce. Je passais simplement pour mes affaires sur une place où il y avait une manifestation gaulliste.
Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus que des gens à foutre.
Bah, les trois détenus, que Lino Ventura n'est pas loin de considérer comme des imbéciles, enfin, ce sont des gens qui n'ont pas fait de choix. Hein. Ils se trouvaient là par hasard, ils avaient un obus malaire dans les rayons de leur pharmacie. Kessel, il insistait davantage sur le choix idéologique qui amenait les uns et les autres à la résistance.
Oui, cette scène est un bon exemple du travail de Jean-Pierre Melville, qui écrit le scénario. Là, on est quasiment à la virgule près dans le texte de Kessel. En revanche, pour un autre personnage que croise Lino Ventura, Gerbier, dans cette prison, Legrain, le petit électricien communiste, ils ont des discussions extrêmement politiques dans le texte de Kessel sur Gabriel Péri, sur le rôle du Parti communiste dans la résistance. Et toutes ces mentions sont quasiment éliminées par Melville. Le mot même, vous l'avez rappelé, de résistance est enlevé, puisque quand Legrain aide Gerbier à s'échapper, il dit « on a besoin de vous, monsieur Gerbier, dans la résistance ». Et dans le film, ça devient « on a besoin de vous dehors ». Donc c'est toutes ces mentions trop historiques, trop marquées peut-être, comme le mot « boche » qu'il y avait dans le texte de Kessel et qui disparaît là aussi du film.
C'est un travail de soustraction.
Voilà, il y a une forme d'épure de toute façon chez Melville qui est la marque de son cinéma, à la fois dans la rareté des dialogues, dans la durée des plans, des séquences. Donc ce travail de cinéaste de Melville passe aussi par un dialogue qui va retrancher tout ce qui peut trop marqué des débats sur la résistance gaulliste, communiste, qui, au fond, n'intéresse pas tellement Melville.
Nous sommes dans cet article que vous avez consacré dans le collectif avec Christian Delage, l'historien et le cinéma, sur l'Armée des Ombres, dont je rappelle, Vincent Guiguenot, que vous l'avez vu sans doute dans le cadre d'un dossier de l'écran, et le générique des dossiers de l'écran, on le retrouve dans le film de Melville.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Peut-être 1000 dossiers de l'écran, dont beaucoup consacrés à l'époque de la guerre et de la résistance d'ailleurs.
Oui, il y avait énormément de dossiers de l'écran qui revenaient sur cette période.
J'entends le mot énormément.
Il y a Morton Gould qui est le compositeur de ce morceau qu'on vient d'entendre, et le point commun en fait entre l'Armée des Ombres, puisque ce thème revient dans les moments les plus dramatiques, quand Gerbier est emmené au peloton d'exécution, et c'est celui qui ouvrait ces fameux dossiers de l'écran avec les mains qui faisaient défiler un carton et qui ouvrait pour révéler aux téléspectateurs de quoi serait fait le dossier ce soir-là.
Les dossiers de l'écran projetés en 75, vous aviez 7 ans, donc le film L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres s'est aussi nourrie par des souvenirs personnels. On va compter l'histoire des deux frères Grimbach, mais avant, écoutez cette séquence qui met face à face Jean-François, Jean-Pierre Cassel, et son frère Saint-Luc, Luc Jardy, Paul Meurice. Paul Meurice, c'est un grand bourgeois, esthète. Jean-François, il est là, en quête de l'action, menacé. Et un jour, il va rendre visite à ce frère dont il se sent maintenant très éloigné.
Bonjour, Saint-Luc.
Hein? Le petit Jean.
Tous les bouquins sont là. Et le clavecin. Et le hautbois. Rien n'a changé.
Ouais. Ah si, température. Plus de charbon. Aussi pour ne pas geler sur place. J'ai acheté ça.
Et ça, c'est une sorte d'habitacle qui est installé dans le grand salon.
Un habitacle en bois dans lequel Luc Jardy et son frère Jean-François prennent leur repas. Ce qui est très intéressant là aussi, c'est que on est dans la fidélité à Kessel, ces deux personnages qui, Luc Jardy, donc, dont on dit qu'il est fortement inspiré par le philosophe Jean Cavaillès, et son jeune frère qui lui est aviateur, un peu la tête brûlée, le jeune premier du film, se revoit, et Jean-François en off, effectivement, dit qu'ils se sont plus proches de quelqu'un qu'il ne connaissait pas une heure avant, mais dont il sait qu'il est résistant, que de ce frère dont il pense que c'est un intellectuel très très éloigné.
Sauf que
c'est le chef du réseau dans lequel il vient d'entrer
et
qu'il ne le sait pas. Et donc cette scène est dans le texte de Kessel, et Melville rajoute cette idée de l'habitacle. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler avec Gilles Deleuze une idée en cinéma, c'est-à-dire de rapprocher, de jouer encore plus sur cet éloignement et rapprochement en les mettant vraiment, les enfermant dans cet habitacle pour écouter de la musique et dîner, tout en marquant leur choix dont ils pensent qu'ils sont radicalement différents.
Jean-Pierre Melville, quand il tourne cela, pense à son frère Jacques Grimbach, dont les choix politiques étaient différents, parce que Jacques Grimbach était un disciple de Léon Blum, un socialiste, et qu'on ne sait pas à Melville beaucoup d'amitié de gauche. Jacques Grimbach a cherché, lui aussi, à aller en Espagne. Il a passé les Pyrénées en novembre 1942, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'un passeur l'a exécuté. Ça, c'est une histoire qui, en secret, taraudait Jean-Pierre Melville.
Alors, c'est une histoire que son neveu, Rémy Grimbach, a portée à la connaissance du public, qui est également racontée dans le très bon documentaire d'Olivier Boller, sous le nom de Melville, et où il ajoute cet élément biographique. On savait, Melville le dit lui-même, qu'au fur et à mesure de l'écriture ou de la réalisation du film, il a ajouté sa touche. Et on a parlé de la scène de Londres, la scène de parachutage. Il y a des choses qui viennent de son expérience, mais plus profondément, sans doute, il y a effectivement cette relation à son frère qui est l'un des ressorts extrêmement forts à la fois du texte de Kessel et de rapport personnel de Melville qui va refuser de témoigner contre le passeur qui a exécuté son frère
pendant le passage des Pyrénées. Au motif, a-t-il dit à son procès 10 ans plus tard, après qu'on a retrouvé le corps de Jacques Grimbach, que Jacques Grimbach, blessé, gênait l'activité du groupe qui s'échappait, que l'activité de tout le réseau aurait pu être mise en cause. Melville refuse de se rapprocher de ce procès.
Oui, Melville dit que tous ceux qui ont connu la complexité de la période comprendront pourquoi il ne va pas accabler ce passeur, parce que les circonstances de la guerre font que c'est plausible, que la défense du passeur... Melville dit que c'est possible parce que les circonstances de la guerre peuvent conduire à ces extrémités.
On comprend mieux certaines scènes du film à la lumière de cette histoire, parce qu'au début du film, un homme est enlevé, un jeune homme fort sympathique, Paul Douna, sauf qu'il n'est pas enlevé par les Allemands, et il s'avère qu'il est enlevé par les résistants et qu'il va être exécuté par les résistants.
Oui, je pense que c'est peut-être ça qui fait que le film est marquant quand on entre dans l'intérêt, le goût de l'histoire et de cette histoire de Deuxième Guerre mondiale, c'est de découvrir un film qui commence et qui se termine par l'exécution d'un ou une résistante par ses camarades. Et cette scène qui est particulièrement pénible, qui s'appelle l'exécution de Paul Douna, qui est l'acte de passage d'un jeune qui s'appelle Le Masque, qui rentre dans le réseau à ce moment-là, à qui Lino Ventura dit « Vous aviez voulu faire quelque chose de difficile, bah vous êtes servi ». C'est vraiment ce qui fait que le film est à rebours de la construction mythologique d'une résistance, c'est-à-dire le côté bataille du rail, on va dire, pour reprendre un autre film tout à fait intéressant également. Donc c'est ça qui est frappant dans le texte de Melville. On se bat beaucoup plus contre soi, contre ses propres camarades et contre les Allemands aussi, mais il y a cette décision très lourde qu'il faut parfois être capable de prendre, dont l'exécution d'un camarade parce qu'il peut donner, parce qu'il a donné.
Cette question va se poser de nouveau plus tard dans le film, autour d'un personnage extrêmement sympathique, intègre, Mathilde. Mathilde qui cherche tous les moyens, dans la scène qu'on va entendre, d'aller libérer Félix, qui a été arrêté, qui menace d'être torturé et qu'il faut rejoindre d'une manière ou d'une autre. Et Mathilde a toujours de bonnes idées.
Et votre mari ? Elle est au courant de vos activités ?
Absolument pas. Ma fille non plus. C'est elle. Elle a 17 ans.
Gardez pas ça sur vous.
Vous avez raison, je vais m'en séparer.
Avant même de reprendre ce que je nous appelais la routine... Nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé.
On va pas redire, ceux qui ont vu le film se souviennent précisément de chacun de ces caractères, les solutions auxquelles pense Mathilde. La difficulté, c'est que Mathilde, on a entendu qu'elle était très attachée à un portrait de sa fille, elle peut être l'objet de chantage. Elle va être l'objet de chantage, elle peut trahir, elle va trahir. Et autour d'elle, il va y avoir une délibération, comme tout à l'heure, autour du cas de Paul Douna que vous évoquiez.
Oui, ce qui est intéressant dans les personnages de Melville et de l'Armée des Ombres, c'est qu'ils sont beaucoup plus déterminés par leur destin, ce qui va leur arriver, et c'est souvent la mort, que par leur passé, dont on sait souvent très peu de choses. Et les rares éléments qu'ils ont conservés de leur passé sont des menaces pour leur activité, pour leur présent. On a très peu d'éléments biographiques sur. On sait que Gerbier est ingénieur, que le bison a été dans la Légion. Et Mathilde fait l'erreur de garder une trace de son passé. Et cette trace fait qu'une délibération effectivement a lieu entre Gerbier et Luc Jardy, où Luc Jardy a cette phrase terrible où il dit Mathilde est à exterminer d'extrême urgence et par tous les moyens, ce qui déclenche la révolte du bison qui lui est prêt à tuer des hommes tant qu'on lui dit, mais pas Madame Mathilde qui est une grande femme.
Et finalement, Saint-Luc, le plus pur, entre guillemets, montera dans la voiture des tueurs au grand étonnement de Gerbier. Quoi, toi, dans cette voiture de tueur? Et Mathilde sera assassinée en pleine rue. Alors, il y avait deux possibilités, là, Vincent Guiguenot, où on faisait comme à la fin de votre texte dans L'Historien et le cinéma, citation de Malraux, le visage torturé, une question lancinante dans le film, dans le cahier photographique, apparaissent deux photos issues de l'Armée des Ombres. Ou alors, on évoquait un autre dossier de l'écran. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez fait cet ultime choix.
Je voudrais vous dire que nous avons tous regardé ici sur ce plateau avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'émotion, ce film qui retrace l'une des époques les plus difficiles, les plus douloureuses de notre histoire. Et si nous l'avons fait, c'est parce que tous ceux qui sont autour de moi sont les principaux acteurs du drame que nous venons de vivre sur l'écran. Monsieur le ministre, d'abord, si vous le permettez.
Je tiens à vous dire que je suis parfaitement scandalisé. On nous a présenté ce soir la réalité d'une façon odieusement caricaturée, pour ne pas dire grotesque. Je passe rapidement sur l'histoire du demi-frère d'Hitler qui tient de la plaisanterie de mauvais goût pour en venir plus précisément à mon personnage, que l'on présente comme un velléitaire à la limite de l'incapacité. Alors que tout de même, soyons sérieux. Si j'ai été nommé ministre des anciens combattants, ce n'est pas par hasard.
Bien sûr.
Et je m'étonne, monsieur Jérôme, je m'étonne que la télévision ait choisi ce film-là.
Oui. Tout est faux de A jusqu'à Z. Les personnages sont ridicules. Le ministre se plaint. Mais moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pantin qui est tantôt mou, tantôt provocant, c'est plus très bien? Écoutez, vraiment, le costume dont on m'a affublé dans le film, c'est d'un goût...
Oui, monsieur Ramirez, vous voulez intervenir?
Je trouve ce film scandaleux parce que ce film traîna dans la merde une part de la population française, qui est scandaleux, beaucoup d'autres Français.
Monsieur Ramirez, une question. Est-ce que vous parlez français?
Oui, pourquoi?
Je pense qu'à ce moment-là, le débat gagnerait en clarté.
Simplement, je veux rappeler que mon père n'est entré à la Gestapo que pour noyauter ce mouvement, n'est-ce pas, de l'intérieur. C'était en réalité un agent double, vous le savez très bien.
Monsieur Ramirez, si votre père était un agent double, alors moi je suis un agent du KGB.
Alors ce film, 83, vous en connaissez toutes les répliques par cœur aussi. Pourquoi l'avez-vous choisi pour terminer cette émission marquée tout du long d'un crescendo tragique?
Parce que comme l'a écrit Henri Rousseau, il faut presque avoir vu tous les films précédents qui parlent de la résistance pour apprécier la parodie auquel se livrent les acteurs du Splendide.
Et puis Dans Papy fait de la résistance,
dont je me souviens que des gens se levaient avant la fin du film en disant « on va tout de même pas regarder le débat ». Preuve que l'Armée des Ombres et les dossiers de l'écran ont lourdement façonné un rapport à l'histoire à travers les films, à travers la télévision dans les années 70 et 80.
Merci à vous Vincent Guiguenot, l'historien. Et le film d'ailleurs ne fait pas la distinction entre le film d'auteur et le film de flux, distinction que Jean-Pierre Melville lui-même refusait. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Ilinka Negulesco, réalisée par Audrey Ripouille avec Nasser Moussaoui à la technique. Et tout à l'heure, dans La Tête au Carré, une histoire génétique des agrumes.